a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Frédéric Dabi. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. François Bayrou est encore sous pression. La semaine passée, il était sous la menace de censure de son gouvernement. Et cette semaine, c'est ce qui s'est passé dans un établissement catholique à Bétarame, où des enfants ont été abusés pendant des années, non loin de la ville de Pau dont il est le maire, et pour partie alors qu'il était ministre de l'Éducation. Sévèrement attaqué par des députés, le Premier ministre a dit cela à l'Assemblée nationale.
Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre?
Et puis hier, le Premier ministre a échangé avec 9 des 112 victimes qui ont porté plainte pour agression ou violence sexuelle. Et avant de faire cette déclaration.
Mais un coup de pas, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre. Et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus.
Alors tous ces propos ne satisfont pas Paul Vanier, député La France Insoumise du Val d'Oise. Il était l'invité de la matinale de France Info ce dimanche.
Et ne faisant rien, il ne permet pas de dénoncer les crimes, il ne permet pas de les stopper.
Olivier Faure, le chef du Parti Socialiste, déclarait ceci à la mi-journée sur France 3.
Pour l'instant, ce que j'observe, c'est que François Bayrou a menti à plusieurs reprises devant l'Assemblée. Il nous a dit qu'il n'avait jamais été au courant et pourtant, depuis, il nous explique qu'il avait lui-même demandé un rapport en 96. Ce qui, pour le moins, jette un doute sur ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas. S'il a participé d'une manière ou d'une autre à la loi du silence pour protéger l'institution de Bétarame, alors en conscience, oui, il doit démissionner.
Parmi les nombreuses réactions, celle de Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, sur la chaîne Info LCI.
Si il a menti sciemment, c'est-à-dire pour protéger une responsabilité ou une erreur grave qu'il aurait commise à l'époque, il y aura sans doute des suites, je ne sais pas. Moi je ne suis pas, contrairement à la France Insoumise, c'est aussi la France Inquisition, hein, la France Inquisitrice. Ils savent tout, ils sont au courant de tout. Que la France Insoumise se prétende la voix des victimes, alors que c'est un parti qui relativise systématiquement les méfaits, les criminels, et qui pense que c'est toujours la faute de la société et jamais des ordures. Nous, à la Rassemblement National, on a une vision très claire. Je me souviens que Marine Le Pen, au présidentiel, a été la seule candidate à vouloir parler des droits des enfants. J'ai ma collègue Caroline Parmentier, qui siège à la délégation pour la protection de l'enfance, qui me dit régulièrement que non. Ce pas de vague, malheureusement, ça continue. La justice est faible.
La France Insoumise qui exige donc la démission du Premier ministre, à laquelle faisait allusion à l'instant Jean-Philippe Tanguy. Et puis la prise de parole de Marc Fesneau sur RTL était très attendue, car à l'Assemblée nationale, il préside le groupe Modem, qui est le parti dirigé par François Bayrou.
La polémique que je considère moi personnellement comme assez répugnante, c'était de dire il a couvert les faits quand il était ministre. Quand il était en situation de savoir, il savait, et deux, il n'a rien fait. La vérité, c'est que le premier fait, quand il est ministre, le seul fait, c'est un fait d'une violence sur un élève. La procédure s'est suivie. Il y a eu une enquête administrative qui conclut au fait qu'il n'y a manifestement pas de violence dans cet établissement. Oui, c'est le seul fait qui couvre le moment où François Bayrou est ministre. Non, émergent d'autres plaintes. Il n'est plus ministre. À quel moment quelqu'un peut dire que François Bayrou, ou qui que ce soit d'autre, parce qu'il y a eu d'autres ministres qui se sont succédés, et entravaient le fait de la justice.
Voilà pour cette affaire Bétarame qui est en cours. Comme on dit, Bétarame étant donc le lieu où se trouve cet établissement catholique. Et malgré cette affaire, Frédéric Dabi, donc directeur général opinion de l'IFOP, il y a un sursaut de popularité pour François Bayrou dans vos études d'opinion.
Oui, tout à fait. Dans le dernier indice de popularité IFOP JDD, hein, le plus ancien baromètre de la Ve République, il y a un vrai rebond de popularité de François Bayrou, plus 4, 38% de satisfaction. Parce que les Français surtout ont retenu de la séquence la plus récente, le fait qu'il ait réussi à faire passer son budget, qu'il ait déscotché le Parti Socialiste du NFP et de la France Insoumise. Et les Français ont plutôt salué son habileté, sa capacité à faire des compromis, ce qui le distingue d'un Michel Barnier qui n'a pas réussi à éviter la motion de censure. Ça ne veut pas dire, cette enquête qui est faite sur 2 semaines, qui donne la parole aux Français, la deuxième semaine, là où l'affaire de Bétarame dont vous parliez est montée médiatiquement, les Français en ont parlé. Mais ça pèse pour l'instant, je dis bien, pour l'instant peu, dans les raisons du mécontentement. Le mécontentement, c'est l'idée que c'est un Premier ministre qui n'est pas tout à fait légitime, d'excite les sympathisants de gauche, qu'il ne fait pas grand-chose, que c'est un homme politique plutôt classique pour ne pas dire vieillot, même si on lui reconnaît, et c'est en lien avec cette affaire de Betarame, l'image d'un honnête homme. On a entendu vos différents sons, c'est très fortement porté par la gauche et par la France insoumise. N'oublions pas que l'émetteur LFI est un émetteur très discrédité chez les Français. LFI a 80% de mauvaises opinions en tant que parti. Bien sûr, c'est un sujet délicat. C'est pas encore une affaire d'État, c'est peut-être une affaire de l'État. Avec cette affaire, ce soupçon de mensonge, et puis surtout, le public, l'enfance des enfants qui auraient été, des adolescents ou des enfants qui auraient été violentés, frappés, c'est des sujets qui touchent beaucoup les Français. Pour l'instant, ça ne touche que très marginalement plutôt cette bonne séquence pour François Bayrou.
Justement, les affaires de mœurs sont de plus en plus révélées. Elles constituent désormais un enjeu politique bien loin de ce qui s'est passé durant de nombreuses années où c'était cantonné aux pages des faits divers.
Bah oui, alors c'est moins des faits divers que des faits de société. Il y a eu MeToo, toute une série de MeToo qui ont été déclinées. Il y a la question des violences faites aux femmes, des violences sexistes, des violences sexuelles qui sont maintenant très fortement portées par les Français. Et ce qui me frappe, Philippe, c'est que c'est de moins en moins un sujet clivé femme-homme. Il y a vraiment une prise de conscience que c'est un sujet général. Là, on a retrouvé un clivage de genre. Ça a été au moment de l'affaire Dominique Pellicot qui, là aussi, a très fortement frappé les Français dans un contexte d'éclipse du politique, d'indifférence des Français après cette crise parlementaire que l'on connaît, où rien ne les touchait. Ces sujets touchent plus que la moyenne, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de danger pour François Bayrou, il surfe sur une bonne dynamique d'opinion, il est très majoritaire chez les sympathisants du Bloc central, de LR, alors qu'il y a un passif entre François Bayrou et la droite depuis le non-vote pour Nicolas Sarkozy, l'appel à voter pour François Hollande en 2012, mais effectivement, ça pourrait être un sujet s'il n'arrive pas à déminer les choses. Il est allé sur le terrain samedi, il a plutôt dit sa part de vérité. C'est vrai que l'argument de dire « mes enfants étaient scolarisés, comment aurais-je pu mettre de côté ces violences ?» c'est l'argument qui porte, mais à suivre.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Le parti Les Républicains va-t-il renouer avec ses vieux démons, celle de la guerre des chefs, grand classique de la droite? Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau se sont déclarés candidats cette semaine à la tête du parti. L'enjeu est important car le vainqueur sera ensuite bien placé pour se présenter à la présidentielle en 2027. Le ministre de l'Intérieur qui a dit son ambition ce matin sur Europe 1.
Pour faire en France un grand parti de droite, à la fois patriote et je veux aussi, et je l'ai vu, je vois bien que les Français plébiscitent. Vous l'avez vu à travers des sondages, je le vois à travers d'autres sondages, la France est plutôt à droite aujourd'hui. Eh bien cet espoir, cette fierté d'être de droite, de se reconnaître dans nos idées, je veux la consolider. Je veux vraiment faire en sorte que ce parti devienne l'axe qui soit central, pas centriste, central de la vie politique française. Ma droite, elle est fière, elle n'est pas honteuse. Ma droite, c'est une droite qui veut l'autorité, qui veut la fermeté, comme beaucoup de Français. C'est une droite qui veut que le travail paye plus que l'assistanat, que l'État arrête de faire la poche des Français. Et c'est une droite qui veut que l'école transmette des savoirs, ne les déconstruise pas, mais qu'elle transmette aussi une fierté française.
Frédéric Valletoux est député Horizon de Seine-et-Marne, président de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale. Sur France 3, il observe et rappelle que le chef de son parti, Édouard Philippe, a vocation de rassembler la droite pour la future élection présidentielle.
Personne ne parlait de Bruno Retailleau il y a 6 mois. Là, il monte très haut et il fait un super boulot, donc c'est normal qu'il fasse parler de lui. Mais les choses vont et viennent. Ce qui ne change pas depuis 2 ans, 3 ans, c'est un, qu'Édouard Philippe reste un homme que les Français regardent et qu'ils mettent très haut dans les sondages. Deuxièmement, c'est qu'il construit pas à pas une démarche et un parti qui seront bien utiles. D'enracinement, bien utile le moment venu. On continue le travail et il apparaîtra à un moment qu'il est le mieux placé pour effectivement fédérer derrière lui. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de primaire, parce que l'exercice des primaires, vous savez, nous verrons bien quels seront les rapports de force, où nous en serons les uns les autres, comment LR va sortir de cette compétition interne, avec quelle envie ils vont avoir de se raccommoder.
Et dans le journal La Tribune Dimanche, Jean-Luc Mélenchon de LFI accuse Bruno Retailleau de chasser sur les mêmes terres que l'extrême droite, d'où cette réaction de Jean-Philippe Tanguy, membre du bureau national du RN.
Ça m'arrive rarement, mais je veux remercier M. Mélenchon de donner le pot aux roses. Effectivement, il serait ravi, M. Mélenchon, qui sait qu'il serait battu à plate couture par Marine Le Pen, d'avoir M. Retailleau comme adversaire, parce que ce serait l'inverse. M. Retailleau ferait au second tour un score très décevant, pour une simple raison, c'est qu'il n'est pas aligné avec la société française sur beaucoup de sujets. Voilà, donc moi je le dis, M. Retailleau, c'est Sarkozy, avait donc la trahison de toutes les valeurs, de tous les programmes, mais en plus, contre le droit à l'avortement, contre le mariage pour tous, contre le droit des femmes, contre la lutte contre un certain nombre de discriminations qui ne sont pas inventées, qui peuvent exister.
Bon, Frédéric Dabi, quelle est la popularité du ministre de l'Intérieur chez les Français, mesurée par l'IFOP?
Oui, c'était dit par Frédéric Falthoux. Depuis 6 mois, il y a une explosion de la popularité de Bruno Retailleau, qui était, rappelons-le, peu connu des Français. Il était vu comme un proche de François Fillon, auparavant de Philippe de Villiers. Il était vu comme un sénateur. Mais là, clairement, Place Beauvau, il a une bénéfice d'une vraie visibilité, d'une vraie popularité. Il fait partie du top 8, du top 10 des personnalités préférées des Français. Ce qui est intéressant, ce n'est pas sa popularité, ce n'est pas une course de petits chevaux. C'est le fait qu'il surperforme dans des catégories essentielles. Sympathisant Renaissance, électeur d'Emmanuel Macron, sympathisant LR, et également, par rapport à ce que disait M. Jean-Philippe Tanguy, sympathisant IREN. Il a 58% dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Paris Match et Sud Radio, chez Marine Le Pen, dans l'électorat Marine Le Pen de 2022. Pour l'instant, il est faible à gauche, il est faible chez les ouvriers, mais il coche beaucoup de cases qui pourraient faire dire aux sympathisants du bloc central et du socle commun, si c'était lui pour 2027.
Et il va affronter donc Laurent Wauquiez pour prendre la tête de LR. La guerre des chefs, c'est un grand classique, je le disais tout à l'heure, de la droite française sous la Ve République.
C'est l'histoire de la droite. Si on avait du temps, on montrait à Chirac-Chaban, puis Giscard-Chirac. On se souvient de Copé-Fillon, de Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. C'est vrai que c'est quelque chose qui traumatise le peuple de droite. Surtout Philippe, qu'il y a un moment... On est dans un moment de renouveau de la droite, qu'on a vu aux élections législatives partielles, à l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, où la liste de droite a surclassé la liste de la France insoumise. Et c'est vrai qu'on a entendu aussi bien Laurent Wauquiez que Bruno Retailleau ce matin être très prudent et ne pas donner l'impression de réactiver cette querelle qui les mettrait vraiment en déconnexion avec ce qu'attendent les Français sur la question d'insécurité et de sécurité, le domaine de référence de Bruno Retailleau, et le peuple de droite.
Vous disiez Laurent Wauquiez qui s'est montré particulièrement prudent. Votre commentaire là-dessus, Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
Oui, rappelons-le, LR n'a toujours pas de chef depuis le départ fracassant d'Éric Ciotti, parti nouer une alliance avec le RN. Depuis, Laurent Wauquiez semble tergiverser cet été au Montmézin. Il annonce, aux côtés de Bruno Retailleau, une opération refondation de la droite, mais rien ou presque ne s'est passé depuis. Pas de date de congrès, pas de ligne politique clairement définie, des refus répétés également d'entrer au gouvernement, comme s'il attendait le bon moment pour sortir du bois. C'est un cérébral, il réfléchit beaucoup, parfois trop, résume un ancien cadre du parti. Car pendant ce temps, même sans direction claire, la marque LR reprend des couleurs, notamment à travers Bruno Retailleau, ministre le plus populaire du gouvernement. Il laisse une empreinte très forte auprès de la France de droite, se convainc un ministre. Outre les sondages, LR enregistre également de bons résultats dans des élections partielles. Bref, un alignement des planètes pour Bruno Retailleau, qui, voyant Laurent Wauquiez tarder, tente de faire quelque chose de cette popularité. À court terme donc, prendre le parti, et à long terme, incarner LR pour la prochaine présidentielle.
Autre question, Raphaël Delvolvé, qui est le favori aujourd'hui ?
Pour l'instant, Bruno Retailleau est devant Laurent Wauquiez dans les enquêtes. Il a également le soutien de poids lourds comme Xavier Bertrand ou Gérard Larcher. Chez Wauquiez, ça se compte sur les doigts d'une main, estime un soutien du Vendéen. Mais l'ancien président de région est aussi réputé combatif, voire teigneux. Dans une interview au Figaro cette semaine, il lance de premières flèches. Il voit par exemple, dans son absence au gouvernement, un atout. Il ne s'estime notamment pas lié à François Bayrou. Il peut de surcroît entraver l'action gouvernementale puisque, rappelons-le, il préside le groupe des députés LR à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez tente aussi de jouer la montre. Ses proches, à grand renfort de juristes, ont imposé au parti 3 mois de campagne. Les scrutins internes apportent toujours leur lot de surprises, surtout à droite, où les guerres fratricides laissent souvent du sang sur les murs.
Frédéric Dabi, votre analyse?
Oui, chronique très juste de Raphaël Delvolvé. Je nuance sur un petit point. Attention de ne pas dire que les enquêtes d'opinion vont faire l'élection. C'est une élection interne, c'est un congrès. Je parlais tout à l'heure de la guerre Copé-Fillon. Les sondages d'opinion donnaient une victoire écrasante pour François Fillon. Et c'est finalement auprès des adhérents, auprès des militants, peut-être plus radicalisés auprès d'eux. C'est Jean-François Copé qui l'avait emporté, comme Éric Ciotti l'avait emporté face à Bruno Retailleau il y a 3 ans. Donc prudence sur la traduction des sondages auprès des sympathisants, sur ce qui se passera auprès des adhérents pour lesquels personne n'a de fichier.
Ça, c'est au sein de la droite. La connexion Bruno Retailleau avec l'extrême droite, est-ce qu'il peut être un obstacle à Marine Le Pen et empiéter sur son électorat?
Alors, je pense qu'il y a un petit traumatisme au Rassemblement National. Jean-Philippe Tanguy l'a un petit peu fait, l'a peut-être fait involontairement sentir. C'est 2007. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait réussi à siphonné l'électorat de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai que j'ai parlé de la forte popularité de Bruno Retailleau auprès des électeurs du Rassemblement National. Peut-être il pourrait refaire le coup de Nicolas Sarkozy en 2007, même si aujourd'hui, Marine Le Pen et le RN, de manière plus globale, apparaissent comme des favoris parce qu'ils incarnent aujourd'hui l'alternative, ce qu'on n'a jamais essayé et qui pourrait arriver au pouvoir.
Frédéric Labi avec Brice Sokol, vous venez de publier un livre aux éditions de l'Aube qui a pour titre « Parlons-nous le même langage ?» avec cette deuxième question « Comment les imaginaires collectifs peuvent-ils réconcilier une France en crise et façonner son avenir ?» Alors on entend dans les médias les politiques parler de souveraineté, d'immigration, d'industrie, de démocratie. Est-ce que ça leur parle vraiment aux Français ?
Oui, ce qui leur parle moins, c'est la manière dont les politiques, on l'a montré dans ce livre, on a fait appel à du qualitatif, on a fait s'exprimer des Français spontanément, des Français des métropoles, de petites villes et des territoires ruraux. C'est la manière dont les politiques en parlent, s'en saisissent. Les politiques restent très fortement, et on l'a entendu tout à l'heure, omnubilés par le clivage gauche-droite. Et bien justement, les Français, sur la souveraineté, sur l'immigration, sur les services publics, sont de moins en moins marqué par ce clivage gauche-droite. Les points de vue se sont beaucoup rapprochés. On a trois quarts des sympathisants de gauche favorables à l'expulsion d'étrangers condamnés par la justice. On a une majorité de sympathisants de droite qui sont favorables à la régularisation de sans-papiers dans les métiers en tension. Les points de vue se sont rapprochés. Il y a beaucoup plus de communs qu'on le dit chez les Français. On a toujours tendance à vouloir chercher, notamment dans les enquêtes d'opinion, la fracturation, le clivage. Et c'est ce commun qui n'est pas pris en charge par la classe politique.
Vous vous intéressez également à la qualité de vie, au commerce, à la famille, à l'école. Et puis il y a des mots, et donc des chapitres, qui peuvent surprendre. Tranquillité, frugalité.
Oui, alors on a fait d'abord parler spontanément les Français sur les mots qui les intéressaient, et ils ont moins parlé d'insécurité que de tranquillité. Et justement, comme nous sommes un peuple très très politique, très rapidement, notamment en zone rurale, la tranquillité a glissé sur l'intranquillité, l'insécurité, le fait que on vit, non pas un sentiment, mais une réalité d'insécurité dans les communes rurales avec beaucoup plus de cambriolages que par le passé, et le fait qu'on a un sentiment que la question de l'insécurité et donc de l'intranquillité n'est plus une question de police, mais une question de justice. Et des débats sur les faits divers tragiques, les faits de société tragiques récents, sur l'insuffisante réponse pénale.
La ruralité, justement, particulièrement vraie pour les ruraux qui se désolent du manque d'égalité, écrivez-vous, avec le reste de la nation. Ça veut dire qu'il faut que l'État repense son logiciel de référence urbain qui semble être sa seule boussole aujourd'hui.
Très clairement, vous aviez parlé d'imaginaire. On a fait émerger des imaginaires, ce qui meut les Français, ce qui les fait réfléchir, leur système de croyance. Et c'est vrai que l'imaginaire des habitants des métropoles, c'est la liberté. Chez les ruraux, c'est l'égalité et surtout le sentiment de ne pas être traité de la même manière, notamment sur la question centrale des services publics. Dans un territoire rural, dans une petite ville, un service public qui ferme, c'est le sentiment que mon territoire décline et qu'il est abandonné par l'État. Mais attention, on parle souvent de la ruralité, Philippe. Il y a des ruralités. Il y a des ruralités où ça se passe très bien, notamment pour l'accès aux soins. Il y en a d'autres où la situation est beaucoup plus compliquée.
Vous faites de nombreux constats, Frédéric Labi. Vous évoquez aussi des pistes de changement. Notamment, il faut, dites-vous, que la politique s'inscrive dans le temps avec une vision à long terme, ce qui n'est plus le cas.
Bah oui, c'est la question des réseaux sociaux, de la réduction des mandats, de la fin du cumul des mandats, où clairement, on a des élus nationaux qui apparaissent déconnectés et on est sur une crise du résultat. Clairement, à l'échelle nationale, les politiques n'arrivent plus à changer d'avis, pour reprendre l'ancienne mitterrandiste et socialiste des années 70, alors qu'à l'échelle locale, le maire, l'élu local, qui est sur le terrain, qui écoute, arrive à transformer le quotidien de nos concitoyens. Et c'est vrai qu'au-delà de la crise du résultat, il y a une crise de l'écoute. Les Français ne se sentent pas écoutés. La manière dont les mots dont vous parliez sont pris en charge dans la sphère politique nationale, sont utilisés, sont déformés, ne convient pas à beaucoup de Français. On est à 2 ans et demi presque d'élection présidentielle, un petit peu moins. C'est ce moment où les politiques vont débattre entre eux des solutions pour le pays, avec surtout cette question du cap qui est effectivement très absente des discours qui sont très court-termistes. Nous sommes dans cette période d'exit, d'éclipse du politique et de cette crise parlementaire pour l'instant préservée, mais qui peut encore être réactivée.
Et ces analyses à retrouver donc dans votre ouvrage « Parlons-nous le même langage » aux éditions de l'Aube. Je signale qu'il a obtenu le prix Edgar Faure de l'année engagée, remis par les Sénats. Frédéric Labi, directeur général adjoint de l'IFOP, dans Dimanche Politique ce soir sur Radio France Internationale.
Merci.